18. Catabase. Dans le suaire des nuages, je découvre un cadavre cher. Et sur les célestes rivages, je bâtis de grands sarcophages. Charles Baudelaire. Homme retiré et bouclier dans le dos, Edan de Vaumacel fut le premier à s'engager dans l'étroit escalier. Le caveau étant à son nom, il allait de soi qu'il devait ouvrir la marche. Le sire de Vaumacel s'éclairait avec une bougie que venait d'allumer Kell. L'épée n'ayant aucune utilité dans un passage aussi exigu, le chevalier gardait la main droite sur la poignée de sa dague. Nem lui emboîta le pas, malgré sa réprobation et sa mauvaise humeur. Ils furent suivis par deux des aventureux, tandis que le page, bien qu'il trépignât d'impatience, était chargé de fermer la marche avec une autre chandelle. Le chevalier au coucou, après leur avoir recommandé de bien s'amuser, était resté à l'extérieur. Il allait passer le temps en peaufinant le compliment qu'il servirait aux défenseurs de verre pour les convaincre de relever son défi. Badina-t-il. Seule la pie de Sir Hamelin était de l'expédition souterraine. Et encore protesta-t-elle à grand renfort de battements d'ailes et de jacasserie quand son maître l'invita à rester sur son épaule. Malgré sa curiosité, le volatile n'avait pas du tout l'air inspiré par les sous-sols où on l'entraînait. Quoiqu'un peu plus gros, le jet de Sir Cadelin se montrait plus timide et demeura perché sur un sépulcre voisin. Il perça le brouillard de quelques cris rauques quand Cadelin s'engloutit dans le tombeau. Quant à Mirabilis, il s'était tout bonnement évaporé. Il était tout à fait clair que le matou ne tenait nullement à redescendre dans les profondeurs de la nécropole. Ayant cru qu'ils allaient franchir une poterne dérobée plutôt qu'un souterrain, les chevaliers n'avaient pas prévu de lumière. Les rétines des elfes étant presque aussi sensibles que celles des chats et des renards, les aventureux ne se sentaient nullement gênés par une pénombre tirant sur l'obscurité. Ils avaient donc négligé la question de l'éclairage. D'ordinaire plus prévoyant, Nem avait omis de s'équiper ce jour-là, sans doute parce qu'il avait voulu croire jusqu'au dernier moment qu'une entreprise aussi déraisonnable ne déboucherait sur rien. C'était Kell qui avait fait la surprise en tirant deux courtes bougies de son aumônière, où elles étaient serrées au milieu de petits trésors aussi précieux que suspects. Il ne s'agissait pas de simples chandelles de suif, mais de coûteuses bougies de cire d'abeille, probablement soustraites dans les appartements nobles de verre. Ni Nem ni le sire de Vaumacel n'y trouvèrent à redire. Pour une fois, l'indélicatesse du page se révélait utile, et elle paraissait bien vénielle en regard de la forfaiture qu'allait commettre son seigneur. Quoiqu'il fût sombre, l'escalier qu'empruntèrent les compagnons n'était pas très long. Edan arriva au bas des marches alors que Kell s'engageait seulement dans le tombeau. Le passage débouchait dans une petite crypte maçonnée, à peine plus grande qu'un cellier, dont le plafond voussé se trouvait taché par quelques infiltrations. Au centre de cette pièce était disposé ce qui ressemblait à un tombeau, mais cette impression se dissipa sitôt que le chevalier aux épines l'eut éclairé. L'illusion n'était provoquée par le parapet qui gardait trois côtés d'une trappe. Une nouvelle volée de marche s'y enfonçait dans des ténèbres plus profondes. Aussi étroite que celle de l'entrée, cette descente s'avéra nettement plus longue. L'appareillage de la maçonnerie y était plus grossier et les degrés parfois inégaux. Au bout d'une vingtaine de marches, une béance s'ouvrit dans le mur gauche. Les moellons qui le constituaient s'étaient éboulés. Quelques gravats encombraient le passage, mais l'essentiel de l'effondrement semblait avoir croulé hors de la galerie. De fait, quand le sire de Vaumacel éclaira cet enfoncement, il découvrit derrière le mur crevé un trou ténébreux en partie voilé par un rideau de racines, noueuses comme des pattes d'araignée. La cavité paraissait importante. Il en remontait un vague murmure d'écoulement, trop bas pour que la faible lueur de la bougie pût en révéler l'origine. cette rumeur d'eau était toutefois trop ténue pour être émise par le cours souterrain de l'Andoun. Une trentaine de marches plus bas, le passage se retrouva barré par une vieille grille. Derrière les barreaux, on devinait une cave vaste et noire. Mais le chevalier aux épines se heurta à l'obstacle. Il crut d'abord que lui était fermé à clé. Cependant, comme le métal lui parut fort rouillé, il l'ébranla et le poussa avec énergie. En fait, la corrosion avait grippé les gonds et le loquet, mais l'accès n'était point verrouillé. Le battant céda presque aussitôt dans un fracas vibrant qui se répercuta de façon sinistre au fond d'une vraie chambre d'écho. Adan porta vivement la main sur les barreaux pour assourdir leur grelottement. Ce qui n'empêcha pas toute la compagnie de demeurer figée de longs instants, l'oreille aux aguets. Un silence de mort retomba sur les souterrains. Le vacarme n'avait provoqué aucune réaction. Une fois le seuil franchi, le petit groupe put se déployer. Les intrus avaient débouché dans un espace particulièrement large, dont les flammes des deux bougies ne révélaient qu'une faible portion. Le plafond en était peu élevé et le sol irrégulier. Plus de maçonnerie en ces lieux, juste le rocher excavé. De loin en loin, les chandelles révélaient des piliers massifs, larges comme trois hommes, sinon davantage, de sections grossièrement carrées. D'anciennes marques de pics et de havages restaient perceptibles sur les parois. L'endroit avait tout d'une vieille carrière, où avait probablement été extraite la pierre du château. La paix pesante qui régnait dans ces profondeurs n'avait rien de rassurant. Il était à craindre que les dessicatoriens eussent investi les lieux et transformé ces excavations en hypogées. Les compagnons longèrent un mur pour conserver un point de repère. Nem pestant contre Kel quand celui-ci tendait à s'écarter avec sa bougie pour explorer l'espace dissimulé par les piliers. Les détours formés par cette grotte artificielle, quoique vaguement géométriques, ne correspondaient à aucune organisation architecturale. Ils avaient juste été creusés par les tailles successives des carriers. Avec un mélange d'étonnement et de soulagement, les cinq compagnons n'y découvrirent nul indice d'une conversion sépulcrale. Pas de bas-relief macabre, ni le moindre enfeu, ni la moindre plaque funéraire, ni gisant, ni chapelle mortuaire ornée de symboles religieux ou d'ossements. La roche de ce dédale était poussiéreuse et nue. Elle n'inspirait qu'un sentiment étouffant d'abandon. Après un moment, le sire de Vaumacel découvrit un accès condamné. Un mur avait été maçonné entre deux parois de roches taillées. Juste à côté de la cloison, l'un des linteaux se trouvait gravé d'un emblème que, sur l'instant, les chevaliers prirent pour la rencontre de Ser Héliophore de Bromel. Cela les conforta dans leur projet. Si les armoiries ducales ornaient ces souterrains, les intrus se trouvaient probablement dans les luiselles, les sous-sols de verre. Sondé, le mur rendit un son plein qui découragea d'envisager de l'abattre. Les compagnons poursuivirent donc plus avant leur exploration des carrières. Malgré les réprimandes de Nem, qu'elle ne pouvait résister à la tentation de s'écarter du groupe. On voyait régulièrement le halo de sa bougie disparaître au coin d'un pilier obscur avant que le page ne se rabattît en direction des preux. Ses écarts faillirent lui coûter cher. Alors qu'il venait à nouveau de tourner un angle, on l'entendit pousser un cri, qui exprimait d'ailleurs plus la surprise que l'effroi. Il avait manqué choir dans une fosse ténébreuse. À ses pieds s'ouvrait une vaste oubliette, de forme approximativement rectangulaire, dont ni le bord opposé ni le fond n'étaient révélés par la flamme de sa bougie. Comme le reste des carrières, ce gouffre semblait avoir été taillé par la main de l'homme. Cela aurait pu être un vieux puits d'extraction. Un escalier irrégulier dépourvu de garde-fous et large à peine de deux coudées s'abîmait le long d'une paroi. Ce brise-coup parut si traître que, d'un commun accord, les compagnons s'en détournèrent et reprirent l'exploration de leur niveau. De toute façon, leur but était de remonter, non de descendre. Malheureusement, leur inspection finit par s'avérer décevante. En longeant tous les coins et recoins de la carrière souterraine, ils découvrirent d'autres accès murés. Chacun d'entre eux était orné, sur son chambranle ou sur la paroi voisine, de l'emblème à tête de cerf. Les deux aventureux remarquèrent toutefois que chaque bas-relief se distinguait de façon subtile. En fait, le meuble représenté entre les bois du cerf n'était point le soleil de Léomance, mais variait systématiquement. Ici, c'était un visage lunaire, à moins qu'il ne s'agît d'une médaille. Là, il s'agissait de la tête ronde d'un fauve. Plus loin, l'objet ressemblait à un astrolabe, et ailleurs encore, il évoquait une roue à livres stylisés. Le chevalier de Vaumacel et son écuyer furent déconcertés par ces gauchissements dans le blason ducal. Kell observa que c'était bien dans la manière labyrinthique de verre, où nombre de statues qu'on aurait cru identiques différaient dans le détail. « Je vois dans ces mascarons plus que des repères, car ils sont tissés d'un charme d'interdiction, » dit rêveusement le chevalier au pis. Ayant effleuré une des têtes de cerf, il ajouta « Mais le signe ne nous est pas adressé. » Cette attention portée aux faciès gravés dans la pierre finit cependant par être source de dépit pour les compagnons. Au bout d'une assez longue errance dans ces ténèbres troglodytiques, ils reconnurent la tête de cerf au médaillon lunaire. Ils réalisèrent alors qu'ils étaient revenus à leur point de départ. De fait, la grille rouillée au bas de l'escalier bâillait à quelques pas. Les autres issues de ce dédale étaient donc condamnées, à l'exception peut-être du raidillon qui dégringolait dans le puits de taille. Kell en fut ravi et se proposa pour partir en reconnaissance. Les quatre combattants se montrèrent moins enthousiastes. Même s'il convenait qu'il fallait peut-être s'enfoncer très bas pour passer sous le lit de la rivière, cette nouvelle plongée dans les profondeurs leur donnait le sentiment de s'éloigner de leur objectif plutôt que d'en approcher. À son grand désappointement, le page fut à nouveau relégué en serre-file. Le sire de Vaumacel céda sa lumière au chevalier Auget, que son agilité rendait plus propre à reconnaître cette voie dangereuse. Penchés au-dessus du gouffre, les compagnons suivirent des yeux le halo de la bougie accompagner la descente de Sir Cadelin. Malgré son pas sûr, l'elfe marqua des hésitations à deux reprises, comme s'il devait négocier une difficulté. Pourtant, le raidillon continuait à dérouler continuellement ses degrés, ponctué d'étroits paliers quand ils épousaient un angle de la fosse. Pour finir, alors que la flamme de la bougie se réduisait à une tête d'épingle dans l'abîme, le chevalier Auget arrêta de descendre. D'un mouvement de lumière, il fit signe à ses compagnons de le rejoindre. Éclairé par une seule chandelle, le chevalier Opi, le sire de Vaumacel et ses gens s'engagèrent à leur tour dans l'escalier. Ils marchaient à la queue leu-leu, en s'assurant de la main contre la paroi. Toutefois, l'agitation de la flamme, en faisant danser leurs ombres et celles des degrés, compliquait l'appréciation des distances et laissait craindre le faux pas. Sur leur flanc, le vide ténébreux exerçait une puissante attraction, comme s'il invitait à s'abandonner à la chute pour conjurer le vertige. À force de s'ensevelir dans cette bouche obscure, les marcheurs attrapaient un étrange tournis. Dans de brefs accès de désorientation, ils pouvaient avoir l'impression de monter plutôt que de descendre. Tout en bas, le chevalier Auget les attendait, perché sur l'arrondi d'un gros bloc. Autour de lui s'entassait un chaos de rocs poussiéreux. Le fond du puits n'avait pas le sol à peu près régulier de la carrière, mais se trouvait constitué par un entassement chaotique de gravats et d'énormes pierres de taille. Au premier regard, on aurait pu croire que les carriers avaient abandonné l'extraction une fois parvenus à cette profondeur, voire qu'ils avaient en partie remblayé la fosse avec des pierres jetées depuis les hauteurs. Toutefois, dès que ses compagnons l'eurent rejoint, Sir Cadelin se déplaça légèrement sur les arêtes brisées de quelques roches et de la bougie désigna le bas d'une paroi. Au ras de ce terrain bouleversé s'entrebâillait un orifice noir, à peine plus large qu'un soupirail, car il était en partie obstrué par des déblais. « J'ai jeté un coup d'œil dans ce trou, » dit le chevalier au jet. « Il laisse entrevoir un étroit couloir. » En baissant les chandelles au niveau du terrier, la lumière laissait deviner, derrière le cône d'épandage des débris, la fuite d'une sorte de tunnel où deux hommes en armure auraient peiné à marcher de front. Compte tenu de l'étroitesse du passage, le sire de Vaumacel accepta d'autoriser Kell à reconnaître les lieux, mais en lui ordonnant de ne pas s'avancer hors de portée. Plein d'enthousiasme, le page s'engouffra dans la cavité et se laissa rapidement glisser au milieu des gravats. Il confirma qu'un souterrain s'ouvrait devant lui et partit aussitôt en exploration. Très vite, ne tenant aucun compte de ses ordres, il sortit du champ de vision des adultes penchés sur l'ouverture. Du moins, la lueur de sa bougie jetait-elle encore quelques reflets sur les murs de la galerie, quoiqu'ils fussent de plus en plus ténus.
« Sale gamin, on t'a dit pas trop loin !»
rappela Nem.
« Il n'y a pas de danger, ce n'est pas si long que cela !»
répondit le page dont le timbre étouffé démentait le propos. Et au bout de quelques instants, sa voix lointaine et un peu caverneuse leur revint encore.
« Tiens, c'est plus grand ici !»«
Il faut le rattraper !»
grommela l'écuyer.
Sinon ce petit idiot va partir tout seul à la conquête des catacombes. »
Le sire de Vaumacel donna raison à son valet d'armes. À moins qu'on ne le retînt, l'effronté n'en ferait qu'à sa tête et serait capable de s'égarer, sinon pire, dans ce complexe ténébreux. Leur grand harnois ne gêna nullement les deux aventureux qui se faufilèrent en souplesse dans la chatière. Encombré par son bouclier et son armure, le chevalier aux épines eut plus de difficulté à s'enfiler dans cette ouverture. Et Nem, gêné par sa brigandine et sa hache, en eut presque autant. Ils hâtèrent ensuite le pas pour rejoindre les deux elfes. Sans les attendre, en se guidant sur le papillotement lointain de la bougie du page, les chevaliers au jet et au pis avaient déjà pris les devants. Malgré leur équipement, les aventureux étaient presque silencieux. Mais la pie de Sir Hamelin recroquevillée sur son épaule jetait de temps en temps une jacasserie de mécontentement. Le tunnel qu'il remontait n'était pas une simple galerie creusée dans la roche. Il ressemblait plutôt à un couloir bâti de main d'homme, quoique son architecture fût fort archaïque. Les murs légèrement penchés étaient constitués par un alignement d'énormes stèles grossièrement gravées. Des petits moellons de récupération jointoyaient les blocs irréguliers. Le plafond semblait lui aussi constitué d'un alignement de dalles massives. La flamme de la bougie creusait des fentes d'obscurité dans les jointures plus ou moins ajustées. Elle éveillait également de vagues mouvements vermiformes sur les stèles. La pierre y était creusée de sillons plus ou moins circulaires, qui paraissaient ramper et se rétracter au passage de la lumière. Ça et là, au cœur de frémissements spiralés, apparaissait l'épure d'un cerf incisé de profil. Ce corridor paraissait s'être effondré au moment où les carriers avaient excavé leur fosse jusqu'à son niveau. Une section en était devenue inaccessible. Mais celle qu'avait remontée Kell, entraînant les gens de guerre à sa suite, allait en s'élargissant légèrement. Elle débouchait dans une cave assez vaste où le page s'était arrêté. La salle, à peu près circulaire, excédait légèrement le halo lumineux des chandelles. Ses murs étaient constitués du même appareillage monumental et grossier que le couloir. Le plafond n'était pas voûté, mais plat. Une variante maladroite du mascaron de verre y était gravée dans d'impressionnantes proportions. L'énorme tête d'un dicor y fixait les intrus de ses yeux sans pupille.
« Tu aurais dû nous attendre, »
réprimanda Nem sitôt qu'il eut rejoint le page.
Je donne l'impression de faire autre chose ?
Rétorqua l'effronté sur un ton offensé. La réplique était d'autant plus insolente qu'il s'avéra que le caveau semblait être un cul-de-sac. En promenant les bougies le long de la paroi, on y découvrait trois porches surbaissées dont le linteau massif arrivait à peine à la poitrine des adultes. Mais toutes ces entrées avaient été murées par de grandes dalles. Les deux aventureux, en outre, n'y prêtèrent guère d'attention. La pie de Sir Hamelin continuait à protester, tout ébouriffé, en levant un œil torve sur l'imposant bas-relief qui les dominait. Son maître, qui rendait au cerf son regard aveugle, se perdit un moment dans ses pensées.
« Je devine quelque chose en dormition dans cette grossière image, » murmura-t-il. J'y entrevois comme la source cachée du pouvoir du défunt mage.
Parlez-vous de l'archimage qui repose dans la marche franche ? Demanda le sire de Vaumacel.
Non, sa magie était plus civilisée et infiniment plus sage. Je sens ici la marque de ses nargins et de son pouvoir sauvage.
Haussant les épaules, Nem fit la remarque que cela ne les avançait guère. « La seule chose à retenir, c'est que nous avons échoué au fond d'une impasse. Il ne nous reste plus qu'à remonter. »«
Pas encore !»
se récria Kel qui continuait à fureter de droite et de gauche. Les preux se tournèrent vers lui, mais il ne leur accordait aucune attention, la frimousse absorbée par sa bougie qui lui coulait sur les doigts.
« Regardez la flamme !» s'écria-t-il. « Elle s'agite !»«
C'est toi qui l'as fait trembler, gros benet !» grommela l'écuyer.
« Non ! Elle se couche parfois, même quand je ne bouge pas ! Il y a un courant d'air !»
Ces mots n'infléchirent point le scepticisme du vieux valet d'armes, qui, par son attitude, afficha clairement qu'il était prêt à rebrousser chemin. Le sire de Vaumacel eut un instant d'hésitation. Quoiqu'il n'eût guère confiance dans la moralité de son page, sans doute accordait-il plus de crédit à son sens de l'observation. Cependant, si ce caveau avait été un cul-de-sac, peut-être eût-il pu remettre la tâche cruelle dont on l'avait chargé. En définitive, ce fut le chevalier au jet qui donna raison au freluquet.
« Je sens aussi un zéphyr, très doux, » dit-il. « La brise soufflote au fond de ces grottes. »
Encouragé par cet avis, Kel entreprit de longer les murs avec sa bougie. Ce fut en passant devant l'une des portes murées que sa flamme s'affola, agitant les ombres des combattants en un balai sinistre. La dalle qui condamnait le portail n'en épousait qu'approximativement les dimensions. Un courant d'air coulait par l'interstice. À contre-cœur, Nem y inséra le talon de sa hache, puis fit levier sur le manche. Rien ne bougea à la première poussée. À la seconde, la dalle frémit imperceptiblement en émettant un raclement caverneux. La troisième tentative fut la bonne. La pierre bascula d'abord tranquillement avant de s'abattre avec fracas. Nem n'eut que le temps de faire un saut de côté. Devant eux s'ouvrait une ouverture étroite et basse, noir comme un four. Avec un peu de poussière, elle souffla une haleine de caveau humide. Peut-être vexé d'avoir douté à tort, l'écuyer confisqua la bougie de Kel et fut le premier à s'engager dans ce passage. Probablement était-ce aussi une précaution pour empêcher le page de leur filer à nouveau entre les doigts, ce qui n'empêcha pas le petit effronté de se précipiter sur les talons de son aîné. Les chevaliers suivirent. Le tunnel, fort étranglé, les contraignit à avancer en file. Moins haut qu'un homme, il força également les adultes à se déplacer tête basse et genoux fléchis, le plafond pesant sur leurs nuques et leurs épaules dès qu'ils cherchaient à se redresser. Les bougies laissaient parfois un sillage noirâtre sur la pierre. Seul Kel pouvait se tenir droit, mais il manqua de se cogner à plusieurs reprises contre des irrégularités de la voûte. Sur une brève distance,
la galerie parut construite dans le même appareillage grossier que la salle qui la précédait. Puis, ce bâti rudimentaire s'interrompit et fit place à une cavité naturelle. Elle se mit à descendre insensiblement, parfois un peu plus large, parfois si étroite qu'il fallait s'y faufiler de biais. Les parois scintillaient d'un glacis calcaire, tandis que le sol, constitué d'une argile grisâtre, collait aux semelles des marcheurs. Cette pérégrination à croupetons commençait à devenir oppressante quand le plafond s'éleva brusquement, découpant devant les marcheurs une haute crevasse obscure. Nem lança une mise en garde. Le sol se dérobait devant lui. La galerie débouchait sur le vide. Le cri de l'écuyer éveilla des échos caverneux. Au sortir du tunnel, un replat rocheux permit aux compagnons de se rassembler et de se redresser. Leur lumignon n'éclairait plus que la crevasse et la paroi derrière eux. Même le regard affûté des elfes ne put découvrir le sommet du gouffre, pas plus que la muraille opposée. En revanche, loin en dessous, tous purent entrevoir deux flammèches lancées de fragiles scintillements. Il ne fallut qu'un instant pour que les compagnons comprissent qu'ils découvraient les reflets de leurs chandelles qui dansaient à la surface d'une étendue d'eau plus noire que la suie. « Ce doit être le cours souterrain de l'Andoune, » supposa le sire de Vaumacel.
« Dans ce cas, nous sommes sous le Saulecerre, »
marmonna Nem.
« C'est beaucoup trop bas, et pas vraiment sous le château. »
« Mais ce n'est pas loin non plus. » Peut-être existe-t-il un passage pour remonter. Comme pour le contredire, le seul accès que découvrirent les aventureux était une corniche assez large, mais presque abrupte, qui dégringolait vers l'onde ténébreuse. Faute de mieux, ils l'empruntèrent avec précaution. Comme ils descendaient, ils découvrirent que la paroi rocheuse qui longeait avait été décorée à gros traits. Ils ne virent d'abord que des gribouillages, des signes indéchiffrables, les crayonnés inachevés de silhouettes animales. Mais à mesure qu'ils approchaient des eaux obscures, les barbouillages se firent plus nombreux et plus reconnaissables, finissant par créer sur la pierre brute un désordre à la fois arachnéen et harmonieux. C'était pour l'essentiel des représentations de cerfs, vues de profil, parfois superposées, parfois affrontés. Badigeonnés à grands traits, ils possédaient pourtant une présence saisissante. Ils finissaient par former une harde noirâtre dont les contours épousaient les bosselements de la roche. Les jeux d'ombre créés par le passage des bougies donnaient le sentiment que le troupeau rupestre s'ébrouait et s'ébranlait imperceptiblement pour accompagner les visiteurs dans leur lente plongée. Les marcheurs finirent par arriver sur la rive du plan d'eau souterrain. Une plage argileuse, relativement large, s'affaissait en pente douce vers un vaste miroir ténébreux. Ce lac enfoui affichait lui-même une immobilité de pierre. Il paraissait reposer avec la tranquillité trompeuse d'un affût. Ce qui attira toutefois l'attention des intrus fut une sorte de colonnade qui émergea des ombres en bordure de leur petit cercle de lumière. Une structure archaïque se dessina plus nettement à leur approche. Un cercle de pierre levée occupait la rive troglodytique. Cinq stèles approximativement taillées, un peu plus hautes que des hommes, entouraient une pierre couchée, qui ressemblait vaguement à un autel. Deux des piliers était orné de très anciens massacres de cerfs, d'une taille impressionnante. Mais les débris d'andouillés jonchant le sol laissaient deviner qu'à l'origine, chaque stèle était garnie de trophées. Il émanait de ce monument englouti une puissante impression de solitude et de défiance. Elle incita hommes et elfes, jusqu'à qu'elle, à baisser la voix. « Voici le siège d'un grand pouvoir, » murmura le chevalier Auget. « C'est enraciné au fond du rocher. »
« Ce fut sans doute un sanctuaire païen, »
plus vieux que la Léomance, confirma rêveusement le chevalier Hopi. On y sent encore de la haute magie.
Un sanctuaire païen,
s'étonna à mi-voix le sire de Vaumacel.
Mais toutes ces figures de cerf n'évoquent-elles pas les armes ducales?
C'est plutôt la survivance d'une vieille idole dans ses armoiries.
Elle qui mettait un point d'honneur à ne pas se laisser dicter sa conduite par le caractère intimidant d'Estelle, fut le premier à en franchir le cercle. Il découvrit que l'hôtel grossier se trouvait creusé de rainures régulières, qui confirmèrent les intuitions des aventureux. Sir Hamlin supposa qu'il s'agissait de rigoles pour favoriser l'écoulement du sang sacrificiel.
Bien qu'elle fût meurtrière, la magie du sang était jadis courante, soupira-t-il. Elle exauçait les prières adressées à des divinités violentes. Les Bromels sont, dit-on, nés du clan Brocomagle, dont les guerriers immolaient leurs oblations aux manes d'un féroce ancêtre Servier. Ils nourrissaient sa puissance de la force vitale de leurs victimes, usant de sa malveillance pour perpétuer leurs prouesses et leurs crimes. Ils l'adoraient sous le nom d'Afghan le Noir ou Afghan Tête de Serre. Ses pierres et ses badigeons en sont sans doute les vestiges amers. Plus fureteur que jamais, le page crut repérer quelque chose sur le sol. Il l'épousta du pied, et Nem, lui ayant confisqué sa bougie, demanda un peu plus de lumière. Le chevalier Auget abaissa sa chandelle, découvrant de nouveaux traits jadis incisés et désormais à moitié effacés dans la chaussée argileuse. Ce vestige scriptural était formé de lignes droites qui joignaient les pierres levées et d'un cercle parfait qui les enserrait. Des fantômes d'inscriptions longeaient les droites ou légendaient les angles qu'elles opéraient avec le cercle. Leur lettrage ressemblait beaucoup à celui du tombeau de Vaumacel.
« On dirait un plan !» s'enthousiasma Kell.
« C'est plutôt un talisman !»
corrigea sombrement le chevalier Hopi. Les branches de ce pentacle ont intégré les pierres du monument. Des initiés ont voulu ressusciter des rites immémoriaux.
Ces traces-là seraient plus récentes,
s'étonna Edan de Vaumacel. Les païens de jadis étaient-ils lettrés? On a donc inscrit ces mots au plus tard dans le cours des siècles derniers. Et comme Kell, sa curiosité piquée, essayait de déchiffrer une inscription, l'aventureux s'empressa de l'en dissuader.
« Ce peut être dangereux, » avertit-il.
On trouve au pentacle diverses fonctions. Certes, les plus merveilleux vous prodiguent de savantes protections, mais en règle générale, ils servent à faire des évocations.
Qu'aurait-on pu vouloir appeler au fond de ce trou ?
Grommela Nem. Une puissance abyssale, répondit Hamlin en câlinant sa pie effarouchée. Les fresques qui ornent ces excavations sont tout à fait éloquentes. Pendant que Nem écartait le page du pentagramme avec brusquerie, le sire de Vaumacel considéra les massacres de cerfs d'un œil différent.
Le château de verre est rempli de têtes de cerfs sculptées,
murmura-t-il.
Personne n'y prête attention, car on n'y voit qu'un emblème de la famille ducale. Se pourrait-il que le symbole soit ouvertement païen?
Je ne saurais l'affirmer, répondit prudemment le chevalier Hopi. Mais on peut en faire la supposition.
Comment le culte du desséché pourrait-il tolérer ce sanctuaire impie au cœur du bosquet de verre?
Cet entreprenant clergé s'est probablement implanté pour enfouir le temple le plus ancien.
Nous n'avons cependant trouvé aucun indice de destruction ou de consécration des cicatoriennes.
Et pourtant, on peut sans peine pressentir que les quelques souterrains condamnés auxquels nous nous sommes heurtés sépare la nécropole d'une crypte frappée de malédictions.
Voilà pourquoi on peut s'y faufiler tranquille,
se rengorgea Kell. Le chevalier Hopi parut trouver l'opportunité moins réjouissante que le page. Le repère d'une idole exige de prendre quelques précautions, tempéra-t-il.
Surtout si le vieux Sénargin est venu traîner ses guêtres dans ses tréfonds pour y tramer je ne sais quel tour,
maugréa Nem. Et en chassant d'une pichenette la cire chaude qui lui coulait sur les doigts, il ajouta
« En attendant, nous voici tombés aux portes des enfers, et nos bougies baissent. Nous avons intérêt à trouver une sortie assez vite, sans quoi nous terminerons ce pèlerinage à l'aveuglette. »
Se détournant du cercle de pierre, les cinq compagnons entreprirent de chercher une issue. Du côté de la rive, les parois de roches abondamment griffonnées leur opposèrent une muraille impénétrable qui s'incurvait vers l'onde ténébreuse. En fouillant du regard l'obscurité qui couvrait les eaux, le chevalier Auget crut entrevoir un porche naturel au-delà duquel se prolongeait l'étang. En sondant légèrement le fond du pied, il s'engagea dans l'eau sans plus d'hésitation. Il pataugea d'abord comme il l'aurait fait dans une mare, puis, alors qu'il s'éloignait, enfonça graduellement jusqu'à la ceinture.
« Au les cœurs, ne perdons pas espoir !»
s'écria-t-il d'une voix claire, qui résonna sous les voûtes obscures.
« Je vois un conduit où le flot languit.
C'est de la folie d'aller barboter en armes dans ce trou d'eau,
protesta Nem.
Mais s'il s'agit bien de la rivière, ce chenal pourrait nous mener au saut le cerf,
dit Edan. C'est probablement là que se trouve ménagée l'entrée secrète. Lorsque son compagnon eut presque disparu dans la caverne inondée, le chevalier Hopi s'engagea à son tour dans l'étang, suivi de près par Kell et le sire de Vaumacel. Pour les éclairer, le vieil écuyer fut bien contraint de leur emboîter le pas. L'eau referma sur leurs jambes une fraîcheur vive, presque suffocante, qui démentait son aspect somnolent. Sa morsure suscitait des impressions de torrents et de cascades sous un azur d'hiver, qui se mariait difficilement avec ses profondeurs quiètes et ténébreuses. Même les hommes qui n'avaient pourtant pas la sensibilité des elfes aux forces invisibles eurent l'impression d'être traversés par un pouvoir où l'intangible se mêlait au minéral. En s'engageant dans le chenal, ils aperçurent la fragile lumière de Cadelin qui scintillait loin devant, juste à la surface d'un miroir ondulant et noir. Le fond continuait à s'abaisser et leur éclaireur était à présent immergé jusqu'aux épaules. Toutefois, le chevalier Auget lança un appel joyeux. Il venait de repérer un quai souterrain. Kell dut nager lorsqu'il perdit pied. Les adultes purent continuer à marcher, doublement alourdis par leurs armes et par l'eau. Un faux pas fit faire un écart à Nem, qui faillit noyer sa flamme. Mais le chevalier Auget élevait haut sa chandelle pour leur indiquer la voie dans les ténèbres. Il s'était hissé au sec sur une volée de marches. En le rejoignant, ses compagnons découvrirent une rive argileuse où une barque décrépite avait été tirée quillant l'air. Dans l'eau peu profonde, ils devinèrent deux autres canots immergés. Ces épaves, couvertes d'une fine gangue calcaire, avaient pris la même teinte que la roche. Derrière le point d'accostage, un escalier d'une dizaine de marches montait le long de la paroi. Bien que les degrés fussent noirs d'humidité, leur régularité contrastait avec l'architecture fruste des passages empruntés depuis les carrières. Même s'ils ne s'élevaient que de quelques coudées au-dessus de la surface de l'eau, cette légère remontée rendit espoir aux cinq compagnons. Il devenait urgent de trouver une issue. Nem et le chevalier Auget ne tenaient plus que des chicots de bougies. Malgré leur harnois trempé, les chevaliers ne prirent pas le temps de se sécher et se dépêchèrent de gravir ce perron. L'escalier desservait un porche et, au-delà, une longue galerie qui s'écartait de la rive. La lueur des bougies y alluma le long du mur gauche de ternes miroitements. En avançant dans le passage, les compagnons y découvrirent une architecture singulière. Sur leur senestre, le mur était percé par une série d'arcades que fermaient des fenêtres à croisillons de plomb. Il régnait de l'autre côté de ces battants une nuit aussi épaisse que dans le reste de ces souterrains. Les petits carreaux encrassés de poussière et de vieilles toiles d'araignée étaient presque opaques. Mais certains d'entre eux étaient brisés. Et il manquait même un battant entier sous un ou deux arcs. À l'occasion de ces brèches, la lumière des bougies éclairait faiblement par-delà les ouvertures. Les compagnons eurent d'abord l'impression qu'ils longeaient une crypte modeste, mal éclairée par une veilleuse qui se reflétait dans un bassin. Plusieurs porches obscures semblaient ouvrir sur d'autres cellules ténébreuses. Mais au bout de quelques pas, le caractère écaillé de cette vision, parfois striée de traces d'infiltration, dessillait les regards. Derrière les fenêtres ne se trouvait qu'un vide de deux ou trois coudées, et la crypte n'était en fait qu'une fresque peinte sur la paroi voisine. « Un trompe-l'œil !» s'écria Kell. « Comme dans le château ! Cette fois, nous sommes vraiment dans les Luiselles !» De mauvaise grâce, Nem se rallia à l'avis du page, tandis que le sire de Vaumacel rapportait aux aventureux que de semblables peintures décoraient certaines parties de l'hôtel seigneurel. Bien que la mystification eût été rapidement éventée, elle n'en produisit pas moins un effet troublant sur les intrus. Les jeux de lumière sur les petits carreaux poussiéreux renforçaient l'illusion de profondeur et donnaient l'impression que les flammes de quelques lampes tremblaient vraiment dans la crypte factice. Du coin de l'œil, le chevalier Hopi et le sire de Vaumacel eurent même l'impression d'entrevoir deux silhouettes se glisser prudemment entre les piliers peints. Ces ombres avaient une vague allure de religieuse, mais se dissipaient sitôt que l'épreux tournait la tête pour mieux les voir.
Demeure dans ces images un art encore pétri d'enchantement, murmura le chevalier Hopi.
La galerie aux fenêtres finit par déboucher sur un portail arrondi. Son chambranle était orné par un curieux bas-relief. Un château renversé dont les fondations et le pertuis s'enracinaient dans la voûte du corridor, tandis que ses tours et créneaux pendaient vers le seuil. Cette fantaisie ne retint guère l'attention des compagnons, tant fut grand leur désappointement. Car cette porte desservait un escalier à vis qui s'enfonçait plus profondément dans la roche et les ténèbres. L'espoir brièvement entrevu de remonter vers la surface faisait long feu. Mais cette fois, Nem s'abstint d'exprimer ses réserves. Il n'en avait plus le temps. À en juger par la façon dont les bougies avaient baissé, elles ne brûleraient plus assez pour permettre de rebrousser chemin. Ne restait plus que la fuite en avant, en espérant que le débouché était désormais plus proche que l'entrée. L'escalier, quoique taillé de façon soignée, était fort étroit, et les compagnons furent contraints de s'y engager l'un derrière l'autre. Presque aussi raide qu'une échelle, ces marches en biseau le rendaient assez traître. Peut-être l'air qui se raréfiait amplifia-t-il la désorientation des marcheurs. Mais cette descente hélicoïdale finit par communiquer le tournis à tout le monde, y compris aux elfes. Sur l'épaule de Sir Hamelin, la pie ouvrait un bec et des yeux effarés tout en s'ébouriffant de piteuses manières. La pauvreté de l'atmosphère fit crachoter les flammes des chandelles. Celle du chevalier Auger finit par s'éteindre. Peu de temps après, il s'arrêtait avec une exclamation de surprise. Ses compagnons se bousculèrent un peu derrière lui et lui demandèrent ce qui lui arrivait. Le passage était fermé par une épaisse tenture, noircie de vieillesse et de toiles d'araignée. Sir Cadelin ayant tenté de l'écarter de la main, il s'empêtra dans d'autres voilages superposés, dont certains se déchirèrent à moitié sous son gantelet. Ses efforts agitèrent un nuage de poussière qui souleva des quintes de toux derrière lui, tandis que Nem protégeait leur dernière lumière du creux de la paume.
ayant écarté un pan fort lourd de draperie, le chevalier au jet découvrit un palier ténébreux mais enfin de plein pied. En le suivant, ses compagnons éprouvèrent un bizarre vertige lorsqu'ils passèrent sous les plis de la portière. Certains titubèrent, traversés par l'appréhension d'une chute, tels des dormeurs qui ont l'impression de tomber en cédant au sommeil. Sitôt le seuil franchi, cette sensation bizarre s'évanouit. Le lieu où se rassembla le petit groupe était singulier. De dimensions modestes et de forme approximativement circulaire, sa voûte à croisée d'ogives se perdait dans les ombres, 7 ou 8 pieds au-dessus des têtes des chevaliers. Elle était d'une architecture inhabituelle, car elle ne reposait pas sur des appuis en nombre pair, mais sur 5 piliers à peu près équidistants. Les arcades ainsi ménagées étaient voilées par de lourdes tapisseries, dont les brocarts avaient été éteints par la poussière, les années et d'innombrables toiles d'araignées. En dépit d'une épaisse couche de moutons et de résidus, le sol paraissait lisse sous la semelle. L'ayant balayé du pied, le chevalier Auget découvrit une chaussée de marbre. Quelques gravures assez fines la traversaient.
« C'est bizarre, » remarqua Kell. « Ça ressemble un peu aux inscriptions du vieux sanctuaire. »
Avec un instant de retard, la justesse de cette observation frappa les adultes. Quelques frottements du pied suffirent à la confirmer. Des lignes gravées dans le marbre s'entrecroisaient pour former un pentacle. Les 5 piliers de ce dé oublié reproduisaient la disposition des 5 pierres dressées.
« J'aime pas du tout cela, » maugréa Nem. « Sortons de ce cercle. »
À peine avait-il prononcé ces mots que la flamme de sa bougie, après avoir brièvement clignoté, s'éteignit. Une peur irraisonnée s'empara des compagnons, comme si leur chandelle avait été soufflée par une volonté malfaisante. Ils se bousculèrent pour sortir, s'éparpillèrent dans le noir, se débattirent à tâtons dans les voilages où ils s'empêtrèrent, en lacérèrent certains, en soulevèrent d'autres. Et soudain, par 1, 2, 3 brèches, ils se retrouvèrent aveuglés par un flot de lumière. En fait, la haute pièce dans laquelle les intrus venaient d'émerger leur aurait paru nimbée de clair-obscur s'ils y étaient entrés en d'autres circonstances. Mais le contraste les frappa si brusquement au sortir des ténèbres qu'ils en furent éblouis. Ils ne se retrouvaient pas exposés au halo doré des bougies ou à la lueur rougeoyante d'un feu, mais baignés dans une lumière blanchâtre, un poudroiement de jour qui tombait de grandes fenêtres en ogive. Les compagnons en ressentirent un soulagement intense. Ils avaient retrouvé la surface juste à temps. Mais le sentiment de délivrance s'évanouit aussi vite qu'ils les avaient traversés. S'y substituèrent la perplexité et un accès d'inquiétude. Comment pouvaient-ils retrouver la lumière du jour alors qu'ils n'avaient cessé de s'enfoncer dans les profondeurs de la nécropole? Avaient-ils trouvé l'entrée dérobée de verre? Et dans ce cas, risquaient-ils d'être découverts? Une fois leurs yeux habitués à cette clarté diurne, ils inspectèrent les lieux. Ils venaient de sortir d'un baldaquin de pierre, presque un ciborium de sanctuaire, drapé dans les antiques tentures qu'ils avaient plus ou moins déchirées. L'édicule occupait le centre d'une pièce circulaire, de belles proportions mais beaucoup plus élevées que larges. Sous la voûte d'ogive qui se perdait un peu dans la pénombre, un jour pâle tombait à travers des verrières en piteux état. La vitrerie lacunaire ne délivrait plus qu'une lumière laiteuse. Le dallage que foulaient les compagnons était gris de poussière, de tessons ternis et de fientes d'oiseaux. Des fresques fanées ornaient les murs, parfois voilées par des tapisseries encrassées de vieillesse. Quelques meubles drapés de toiles d'araignées ne suffisaient pas à occuper l'espace vide. On y reconnaissait une chaire à haut dossier, quelques faux d'esteuil aux coussins crevés, une grande écritoire,
une sphère céleste emmaillotée d'arentelles.
« Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?»
marmonna Nem.
« Comment se fait-il qu'il y fasse jour ?»
À force de descendre, nous sommes probablement parvenus au fond du saut le cerf, supposa le sire de Vaumacel. Nous aurons débouché dans une construction en bord de rivière, au bas du gouffre.
L'explication n'eut pas l'air de convaincre l'écuyer. De fait, cette salle désaffectée était trop silencieuse pour se trouver au voisinage de la chute d'eau.
« Eh bien moi, je me demande par où nous sommes arrivés !»
s'écria Kell de son côté. Il venait de faire le tour du baldaquin de pierre sans trouver trace de la cage d'escalier qu'ils avaient empruntée. Soulevant les tentures élimées, il jeta un coup d'œil à l'intérieur.
« Rien de rien !»
s'exclama-t-il.
« Quelqu'un a escamoté les escaliers !»«
Tu cherches mal ce passage !»
lui lança le chevalier Hopi, que ce manège amusait.
« Nous avons descendu très certainement un escalier dérobé, à travers les mystères de l'entremonde. »
« Et où est-ce donc les mystères de l'entremonde ? À ma droite ou à ma gauche ?»«
Toujours un pas de côté. »
Pendant que ses compagnons bavardaient, le chevalier Auget avait avisé une porte sous un beau porche sculpté, dont le mascaron représentait le cerf aux yeux de chat du château de Verre. Ayant épousté l'étoile qui la couvrait, il en dégrippa sans trop de peine le loquet, mais éprouva des difficultés à l'ouvrir. Le vieux battant de bois, gonflé par l'humidité, résistait, et il fallut un solide coup d'épaule pour le libérer. Derrière, s'ouvrait un corridor sombre, long de 5 ou 6 pas, qui débouchait sur le sommet d'une nouvelle pièce éclairée par la lumière du jour. En fait, le couloir donnait juste sous une demi-voûte en ogive. Cette nouvelle salle, aussi haute que la précédente, n'était pas de plein pied, mais avait son assise 3 ou 4 étages plus bas. Le chevalier Auget y arriva quasiment sous le plafond, au niveau de la jonction des piliers et des arcs brisés. Une balustrade un peu basse servait de garde-fou à un étroit balcon qui dominait le sol de 40 pieds. Vue d'en haut, cette demi-rotonde donnait l'impression d'être perchée au-dessus d'un puits, mais d'un puits cerclé de loggias et de rayonnages où s'accumulaient coffres, coffrets et reliures de codex poussiéreux. L'endroit, bien qu'il parût abandonné de longue date, était une bibliothèque d'une richesse fabuleuse qui recelait des milliers d'ouvrages. Penché au-dessus du garde-fou, Sir Cadelin venait de repérer une autre porte qui ouvrait tout en bas de la pièce. D'étroits escaliers permettaient de circuler entre les galeries, et les compagnons entreprirent de les descendre. Bien que cette vaste librairie fût construite dans un bel appareillage de pierre, qui disparaissait quasiment derrière les coffres et les rayonnages, volets de marche et entresol étaient bâtis en bois. Planchers et charpentes grinçaient horriblement sous le poids des combattants en grand harnois. Certains degrés ployaient de façon inquiétante sous les sols raides d'acier. Cela incita les compagnons à marcher à distance les uns des autres et à s'engager un par un dans les escaliers. Kell en profita pour fureter à son aise. Il soulevait subrepticement le battant des coffres à portée de main, toujours déçu de n'y trouver que des volumes jaunis, et inspectait les lutrins en quête de babioles. Sur un beau pupitre, il repéra une grande bougie enrobée de toile d'araignée qu'il s'appropria avec beaucoup de naturel. Il la brisa en deux pour pouvoir la serrer dans son aumônière. Un peu par hasard, ses yeux tombèrent sur le gros livre ouvert qu'elle avait jadis éclairé. Sous une couche de poussière, il devina une miniature qui accompagnait le texte bruni. Par curiosité, il souffla sur ses pages et découvrit une petite image aux teintes encore vives, qui représentait des chevaliers voyageant de profil dans une forêt stylisée. Les sourcils du page s'arquèrent quand son regard dériva sur les vers qui illustraient la vignette. Il hésita à saluer
car ce duo nouveau venu était gentiment apparu avec beaucoup de naturel. Il parut tellement réel que d'abord le bel églantier crut qu'il lui était familier. Il s'agissait de chevaliers fort étroitement cuirassés dans un luxueux équipage chatoyant ainsi qu'un plumage. L'un portait sur ses armoiries les ailes coudées de deux pies. L'autre avait sur sa houppelande fait figurer trois jets en bande. Le freluquet mit le nez sur le codex pour vérifier qu'il n'avait pas la berlue.
« Ça alors ! » s'écria-t-il. « Mais c'est nous !
Qu'est-ce que tu nous chantes encore ? »
grommela Nem.
« On est dans ce livre, juste là ! C'est le roman du bel églantier, bien sûr ! Mais sur ce vélin, c'est nous ! Il y a Sir Edan, Sir Ameline et Sir Cadelin ! Pas Sir Tigerned ! Comme si on nous avait ouvert ce vieux bouquin pile à la bonne page !
Avance plutôt, au lieu de nous fatiguer avec tes balivernes ! »
Le chevalier au pic, qui avait eu l'attention attirée par la réaction du jouvenceau, se retourna vers les servants du sire de Vaumacel. Ce garçon a l'imagination féconde, convint-il. Mais c'est ce qui lui permet d'avoir parfois des accès de clairvoyance. Peut-être est-il dans le vrai, et ne s'agit-il point de coïncidence ? Fixant Kell de son regard d'ambre, Sir Ameline lui intima aussitôt sur un ton pressant « Laisse ce livre, valet. Même s'ils ont l'aspect d'innocents ouvrages, ils se révèlent mauvais d'oser feuilleter les grimoires d'un mage. Dans leurs pages sont inscrits des charmes qui guettent l'imprudent lecteur pour envoûter son esprit. » Le chevalier Opie se doutait-il que cet exemplaire du roman du bel églantier était en soi une aberration. Après tout, l'œuvre de Devin était trop récente pour se retrouver dans une bibliothèque abandonnée depuis si longtemps. Pour autant, rien n'autorise à conclure que l'aventureux s'en était ému, car l'attention flottante que portent les elfes à l'écoulement des ans ne les rend pas très sensibles aux anachronismes. En revanche, pour avoir frayé dans la société de la Dame des Futaies Bleues, comme dans celle de mon défunt maître, Ameline n'ignorait pas qu'un livre de magie peut ressembler à tout autre chose qu'un compendium de recettes et de figures hermétiques. Sensible au prestige des chansons, il savait leur charme transposable à l'évocation des histoires, et qu'un mage avisé pouvait en faire de nombreux usages, secourables ou malveillants. Soupçonnait-il la raison profonde pour laquelle l'enchanteresse avait passé commande du bel églantier au romancier ? Devinait-il que le pouvoir qui prêtait son charme de longue vie au sire de Vaumacel ne puisait pas seulement sa sève dans les jardins de la fée, mais aussi dans l'âme des nombreux lecteurs ? Craignait-il que Kell, en se penchant sur cet envoûtement séculaire, ne produisît une boucle qui ouvrirait trop de virtualités imprévisibles ? Il n'eut guère le loisir d'y songer. Le chevalier Auger n'avait pas accordé un regard à la librairie qu'il traversait en direction de la sortie du rez-de-chaussée. Ayant dévalé un peu trop impétueusement les escaliers vermoulus, il gagna tout droit ce seuil. La porte était verrouillée. Mais les intrus étant arrivés de l'intérieur, Sir Cadelin trouva la clé sur la serrure. Il eut un peu de mal à faire jouer le pêne rouillé, mais put tirer à lui le ventail dans un grincement qui manquait dramatiquement de discrétion. Du haut des mezzanines qu'il continuait à descendre, ses compagnons virent sa silhouette se découper dans une luminosité blanchâtre. Ils se hâtèrent de le rejoindre. L'énigme qui les accueillit avait de quoi les réjouir et les déconcerter. D'un seul coup, ils purent respirer un air vif qui ne fermentait plus dans une atmosphère de renfermé, de parchemins secs et de boiseries moisies. L'entrée de la bibliothèque débouchait sur une galerie de bois, en fait une cage d'escalier assez large, qui épousait l'arrondi de la façade de pierre. Mais le brouillard était si dense qu'on y voyait à peine de l'autre côté de la balustrade.
de part et d'autre du seuil, la volée de marche s'évanouissait au bout de quelques pas dans un mystère laiteux.
Au moins, nous voici à l'air libre,
constata le sire de Vaumacel dans un murmure plus soucieux qu'enthousiaste.
Mais où sommes-nous? À l'intérieur du château? Dans quelle cour?
Faute de visibilité, les compagnons tâchèrent de se fier à leur oreille. Ce fut à peine s'ils entendirent, comme perdus dans les lointains, le grondement monotone de la rivière chutant dans son gouffre. À l'évidence, ils n'avaient pas débouché au fond du Solucère, où le fracas des cascades les aurait assourdis. D'autres rumeurs, assez nombreuses, sonnaient plus distinctes et plus proches, comme lorsque le brouillard avait envahi la nécropole. Quelques appels clairs, le gémissement d'un chien, le babil monocorde d'une conversation, le claquement de sabots d'un cheval foulant un sol pavé. Mais il demeurait difficile d'en identifier la provenance, d'autant que s'y mêlaient parfois des effets d'écho caverneux. En s'appuyant sur la main courante, Kell et les aventureux tâchèrent de percer la brume du regard. En vain. Même les yeux des elfes étaient impuissants à traverser un écran aussi impénétrable. Tout au plus, aperçurent-ils que les nuées dérivaient faiblement sous l'effet d'une brise.
Le charme concocté par la dame fonctionne trop bien, plaisanta le chevalier au jet.
Prenons garde qu'il ne se retourne contre nous, maugréa Nem. Nous risquons autant d'être pris à l'improviste que l'inverse.
Les aventureux eurent l'air de trouver la vie sensée et tirèrent silencieusement l'épée hors du fourreau. Cette précaution ne fit que renfrogner un peu plus l'écuyer, tandis que l'humeur de son maître s'assombrissait.
Nous ne pouvons pas nous lancer dans cette entreprise à l'aveuglette, dit le chevalier aux épines. Il faut que nous soyons capables de nous situer. Pour commencer, vérifions que nous sommes bien dans l'enceinte, avant de tenter quoi que ce soit.
Un souffle de vent siffla faiblement dans la charpente de la galerie, comme pour redoubler la mise en garde.
« Je vais passer devant !» proposa Kell avec enthousiasme. « Personne ne fera attention à moi, surtout dans cette purée de poids. Je fais un repérage des lieux et j'en viens. »
Il était déjà en train de s'esquiver lorsque la brise ayant soudain forci déchira la brume. Cette trouée révéla un abîme et à une portée d'arc, peut-être, une ombre verticale qui ressemblait à une falaise. Cette vision s'engloutit aussi vite qu'elle était apparue. Mais quelques instants plus tard, les volutes s'écartèrent de nouveau. Telle l'étrave d'une nave démesurée, une folie de tours, tourelles, toits en poivrière, cheminées et clochetons fendit les nuées. La dérive du nuage donnait l'impression que c'était cette cime castrale qui voguait entre ciel et terre. Ça et là, des écharpes duveteuses s'accrochaient à une échauguette ou un pignon, tandis que, par quelques percées, vaguaient les aperçus mouvants d'un panorama immense. Sous les pieds des compagnons, la brume restait toutefois trop épaisse pour qu'ils découvrissent autre chose qu'un précipice de toitures et de murailles. Par suite d'un inconcevable prodige, ils se retrouvaient juchés dans les hauteurs de verre. Cette découverte les laissa sans voix. Kell lui-même en perdit ses moyens. Il s'était arrêté au bout de quelques marches, fasciné par le spectacle qui se révélait sous leurs yeux. Puis, recouvrant rapidement toute sa curiosité, il s'appuya des deux mains sur le garde-fou et se pencha assez bas au-dessus du vide. Il pouvait entendre le murmure lointain de la rivière qui soufflait son haleine de buée au fond d'une gorge remparée. Mais il n'y accorda guère d'attention. Ce qui avait retenu son œil était une longue et haute toiture, assez loin en contrebas, dont le pignon en escalier et la faîtière lui rappelaient quelque chose. Elle sombrait dans les vapeurs avant de réapparaître, fendant les rouleaux de brume comme un récif sous l'eau courante.
les yeux du page s'agrandirent quand il reconnut une tourelle à l'angle d'une petite terrasse que bordait la pente du toit.
« Là-bas »
s'écria-t-il en tendant le bras.
« Là-bas ! C'est l'hôtel Seigneurel !»
Les chevaliers et l'écuyer suivirent des yeux la direction qu'il indiquait. L'incrédulité se peignit sur les traits de Nem et du sire de Vaumacel. Au terme de leur équipée souterraine, que l'hôtel noble de la forteresse fût sous leurs pieds paraissait absolument invraisemblable. En outre, quoiqu'il demeurât toujours voilé par la brume, il percevait le murmure du cours d'eau qui les séparait des bâtiments montrés par le page. Celui-ci, piqué de ne pas être cru, se mit à trépigner.
« Je ne sais pas comment nous avons fait, mais nous sommes tout en haut de verre !»
piailla-t-il sur un ton un peu trop perçant.
« On se sent juste perdu, parce qu'on n'est pas dans le castel du Fêtre !»
Et redressant sa courte taille avec fierté, il s'exclama
« Nous sommes arrivés sur la troisième île, dans le castel d'Ingremence !»